enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Pourrions-nous prier ensemble tout d'abord ? Père, tu sais pourquoi nous sommes réunis ce matin ? Tu sais, Seigneur, ce qui nous a amenés dans ta maison. Tu sais également, Seigneur, que nous sommes d'abord et avant tout venus pour te louer et t'adorer. C'est ce que nous avons fait et nous l'avons fait de tout notre cœur. Maintenant, eh bien, j'aimerais te demander toute ton aide pour présenter, Seigneur, à ton peuple, les projets qui sont devant nous. Seigneur, ce ne sont pas nos projets, mais je voudrais ce matin être comme ton porte-parole. Ce n'est pas le projet d'homme pour d'homme, mais je crois le dessein de Dieu pour les hommes. Je te loue, Seigneur, parce que tu prends soin de l'Église de Jésus-Christ sur la surface de la terre, mais tu prends également soin de l'Église locale. Tu nous connais, tu sais ce dont nous avons besoin. Sois béni pour cela. Amen. J'aimerais d'abord, eh bien, avant d'introduire le projet, prendre le psaume 100. J'ai désiré commencer par vous lire un psaume de louange. Parce que c'est avec beaucoup d'émotion et en même temps de joie, eh bien, que nous sommes ce matin, et je dis nous, puisque, eh bien, nous sommes toute une équipe, là pour vous présenter ce qui est le résultat de travaux maintenant, qui durent depuis plusieurs mois. Le psaume 100 dit « Poussez vers l'Éternel des cris de... » Ah, il y en a quand même 3-4 qui savent ce que c'est. Vous tous, habitants de Mulhouse et de Bourg-Svillers et de l'Alsace, vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel comment ? Avec joie. Venez avec allégresse en sa présence, sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Et ça, je le crois du plus profond de mon cœur, nous l'avons vécu dans notre famille. Il a été fidèle avec la génération de mes arrière-grands-parents, avec la génération de mon grand-père, de mon père. Il est fidèle dans ma génération et il sera fidèle dans la génération de nos enfants. Le croyez-vous ? Il est fidèle. Alors c'est pour moi, eh bien ce matin, un privilège de vous présenter le projet d'agrandissement. Depuis de nombreuses années, nous avons la joie et le privilège de vivre une croissance dans l'Église. En 10 ans, nous avons multiplié, eh bien, l'Église par 3. C'est-à-dire que nous sommes passés d'un peu plus de 600 personnes aux environs actuellement de 2000 personnes par semaine entre le mardi et le dimanche. Dans le livre des Actes, il est écrit au chapitre 9, « L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. » C'est de son assistance que nous dépendons. Et j'aimerais vous dire qu'au long de tout ce que je suis amené à dire ce matin, je veux rendre gloire à Dieu. Nous n'avons aucun mérite. Alors quel bonheur de vous voir tous ici ce matin, sachant que tout le monde n'a pas pu venir, mais merci déjà d'être présent. Mais quelle responsabilité également. L'une des conséquences de cette croissance a été la multiplication des champs d'action dans lesquels l'Église est engagée, autant les champs missionnaires que des champs d'action tels que la télévision, la radio et autres. L'autre jour, après l'émission de télévision, nous recevions un coup de fil de Milan. Un coup de fil qui venait, eh bien, de Marseille. Nous recevions un coup de fil qui venait de Londres et encore un coup de fil qui venait d'ailleurs. J'ai reçu ces semaines-là des courriers qui viennent du Zaïre et de partout. L'œuvre augmente. Et je crois que cela correspond exactement à ce que Dieu nous a promis il y a des années. Et donc c'est là, eh bien, une œuvre qui vient de lui. Cependant, vous tous qui avez des enfants, eh bien, lorsque vos enfants grandissent, que faites-vous ? vous leur achetez des habits adaptés à leur croissance? Ou bien, est-ce que votre fils de 20 ans est encore dans la grenouillère qu'il avait à 6 mois? Franchement, ce serait inquiétant. Je bénis Dieu de ce que ma maman, qui est là ce matin, eh bien, m'ait mis autre chose qu'une grenouillère. Ça a demandé, eh bien, une adaptation à ma croissance. Alors, ça exige de moi un petit historique. En 1966, mes chers parents, mon papa s'excuse profondément de ne pas être là ce matin. Il a une réunion ailleurs qui était prévue depuis des mois et n'a pas pu le remettre. Par contre, sa chère épouse le représente. Madame Peter Schmidt, pourriez-vous vous lever à votre place pour que enfin on vous voie une fois? Non, pourriez-vous vous lever et rester debout 2 minutes? S'il vous plaît, Madame Peter Schmidt. Jetzt folgt mir an dem Moll. Voilà. Je suis sûr que plusieurs parmi vous, vous savez même pas à quoi ressemble ma maman. Je suis sûr, vous savez même pas à quoi elle ressemble. Eh bien, c'est une femme merveilleuse quand elle dort. En 1966, dans la salle à manger de Jean et de Suzanne, débutait une réunion de prière qui, eh bien, grandira en 1970. Eux qui étaient confiseurs en gros, donc commerçants, feront une expérience dramatique puisqu'ils passeront par un accident dans lequel mon père faillit mourir. Et c'est là, eh bien, que le Seigneur l'appela à plein temps. Non pas parce que l'entreprise allait mal, au contraire. Elle était certainement, au moment, le meilleur de son existence. Cependant, il arrêtera. En 1970, donc, nous transformerons le dépôt de confiserie en une petite salle de culte qui contenait environ 120 personnes. En 1982, cette petite salle de culte, eh bien, sera doublée de surface. Et c'était à Pfastatt. Nous y rentrerons un peu plus de 200, 240 personnes. En 1987, étant à l'étroit, nous avons déménagé à Mulhouse, avenue DMC, et ça, maintenant, plusieurs s'en souviennent. Quand nous sommes arrivés à l'avenue DMC, nous nous sommes dit, mais qu'est-ce qu'on a de la place ici, Paul, est-ce que tu t'en souviens? Et on s'est dit que plus jamais on quittera l'avenue DMC. 2 ans plus tard, nous étions à l'étroit, et nous avons donc acheté ici. Nous sommes arrivés ici et je me souviens de la réaction des frères qui étaient avec nous lorsque nous avons visité. Quels sont les frères qui étaient avec nous? Levez voir la main. Vous êtes plusieurs au milieu de nous. Est-ce que vous vous souvenez? Nous nous disions, on pourra distribuer la Sainte-Seine en mobylette tellement il y a de la place. Bien, ce qui était vrai, en 1989, ne l'est plus aujourd'hui. En 1995, dans ce lieu déjà, nous avons agrandi. Et nous n'avons pas agrandi un peu, nous avons agrandi beaucoup, puisque toute la partie arrière, toutes les salles, tout ce qui était aménagé à l'arrière, s'est fait, eh bien, en 1995-96, une partie de la salle ici a déjà été agrandie. C'est-à-dire que ce lieu de culte a déjà ici, eh bien, été agrandi. Nous arrivons maintenant en 2004. Et c'est là mon propos, j'aimerais vous annoncer de nouveaux travaux. Je me réjouis parce que nous nous rendons compte en regardant l'historique qu'il y a réellement, eh bien, une marche en avant. Dans Ésaïe, nous lisons « Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. » Dans la vision que le frère Jean a reçue, eh bien, je lui ai demandé plusieurs fois, as-tu vu des limites? Ou as-tu vu un nombre précis? Ou as-tu vu un nombre de mètres carrés? Il m'a dit non. Et dans mon cœur, ça se traduisait comme cela. Samuel, la vision ira aussi loin que vous mettrez votre foi en action. La vision s'étendra en fonction de notre foi. Je crois de tout cœur que Dieu a voulu cela. Il y a quelques mois de cela, j'étais ici à 7h le matin, je priais, et je me suis mis devant le mur arrière. Et j'ai dit, Seigneur, si la vision s'arrête là, dis-le-moi. Si elle doit continuer, dis-le-moi aussi. Et ce même matin, alors que j'étais là, j'étais seul bien sûr à 7h, j'ai ouvert la Bible et voilà un texte que j'ai reçu ce jour-là. J'aurais pu en avoir 50 000 autres, mais je crois que c'était une direction de la part du Seigneur. Dans Esdras 3, je vous lis le texte. « Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, c'est là le texte que je recevrai, on fit assister les sacrificateurs en costume avec les trompettes et les lévites, fils d'Asaph, avec les cymbales, afin qu'ils célébrassent l'Éternel d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. » Il chantait, célébrant et louant l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dure toujours. Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en célébrant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Mais plusieurs des sacrificateurs et des lévites et des chefs de famille âgés, qui avaient vu la première maison, pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris, en sorte qu'on ne pouvait pas distinguer le bruit des cris de joie d'avec le bruit des pleurs parmi le peuple, car le peuple poussait de grands cris dont le son s'entendait au loin. » Ça, c'était le matin où je me retrouvais ici et où je demandais, « Seigneur, quelle est ta direction ?» L'Église a été habituée à faire des pas de la foi. Lorsque nous sommes passés de Pfastatt à l'avenue DMC, nous avons fait un pas de la foi sur lequel je reviendrai tout à l'heure. La foi demande de l'audace. Voyez, dans les Écritures, nous trouvons l'histoire du roi qui, à l'ordre d'Élisée, devait frapper la terre avec des flèches. Élisée dit encore, prends les flèches, et il prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Il frappa trois fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper cinq ou six fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à ce que, à leur extermination. Maintenant, tu les battras trois fois. Une vision étriquée. Au lieu de croire jusqu'au bout ce qu'il lui avait dit, il s'est laissé limiter. Joas n'avait pas eu l'audace d'aller au-delà de trois flèches. S'il avait été au-delà, il aurait été victorieux pour toujours. Lors du passage du frère Charles Green, est-ce que vous vous souvenez? Il nous donnera une parole prophétique très claire, que nous nous agrandirons. Il n'est pas le seul, d'autres en ont donné. Et moi-même, alors que j'étais en Suisse un jour, surpris, j'avais terminé ma réunion, une dame vient me voir, elle me dit, monsieur, vous avez un bâtiment qui est comme ça et comme ça. Dans mon esprit, je peux vous dire, il va s'agrandir, il va s'étendre vers l'avant. Nous ne bâtissons pas uniquement sur des prophéties, bien sûr, mais elles viennent nous conforter dans la voie que nous engageons aujourd'hui. Alors, comme je l'ai évoqué précédemment, la croissance que nous vivons est un privilège, mais comporte une responsabilité, celle de faire tout ce qui est en notre pouvoir afin que les projets de Dieu pour nous ne soient limités ni par une vision étriquée des choses, ni par la crainte de passer à une nouvelle étape, et encore moins par une installation dans le confort de l'acquis. J'ai dit au Seigneur, je me refuse de m'installer simplement sur mes lauriers et la base de ce que nous avons maintenant. Frères et sœurs, croyez-moi, ce serait plus simple pour nous de nous arrêter là. C'est beaucoup plus rassurant et beaucoup plus tranquille. Notre vision, c'est que le plus grand nombre d'hommes et de femmes soient sauvés. Alors, j'aimerais avec vous ce matin tirer les flèches. La maison de Dieu, c'est pas l'affaire d'un homme, c'est l'affaire de nous tous. Merci encore une fois pour votre présence. Nous allons passer au projet, mais avant cela, je voudrais remercier, entre autres, un compagnon d'œuvre qui m'a énormément aidé, soutenu. C'est mon frère Roger Gresselin. J'aimerais vraiment que nous puissions le bénir ce matin. Roger est une bénédiction parmi beaucoup de frères. Mais dans ce projet-là, il a été particulièrement Alain Kugler également. J'aimerais remercier l'équipe pastorale qui a toujours été là, le CA qui a toujours été là, le conseil d'église qui a toujours été là et tous les acteurs de l'église qui, à quelque part, sont également à la base de ce projet. Nous allons passer au projet. J'aimerais vous demander peut-être d'éteindre Joseph dans la salle de manière à ce que vous puissiez voir le mieux possible. Le temps de réflexion. Le conseil d'administration a décidé le 13 octobre 2001 de réfléchir à l'agrandissement suite aux demandes formulées par des responsables d'activité. Cela fait 2 ans que nous avons pris le temps de la réflexion. Ce n'est pas donc né comme cela une bonne idée. Et cette réflexion est née suite à des demandes exprimées par les responsables d'activités. Le premier travail a consisté à recenser de manière précise les besoins. Nous avons donc fait un audit interne avec les responsables d'activités le 27 octobre 2002 pour savoir quels étaient leurs besoins à eux. A suivi un établissement sur cette base-là d'un programme pour l'étude du projet. Ce programme a été établi à partir des besoins recensés dans l'audit. Nous avions rassemblé tous les responsables d'activités et nous avions fait un bilan ensemble. Chacun s'est exprimé et a dit ce dont il avait besoin. Alors, j'aimerais énumérer les besoins. Et j'aimerais que vous soyez bien attentifs pour que vous réalisiez à quel point il y a des besoins. D'abord, au niveau de la chapelle, elle est bien trop petite. Très souvent, nous sommes embarrassés lors des mariages, des obsèques. Nous ne savons jamais. Peut-on rester là-bas? Faut-il venir ici? Etc. Nous sommes toujours entre deux chaises. La chapelle est donc beaucoup trop petite. Je ne vous parle pas de la semaine de jeûne et de prière, vous le savez vous-même. Nous dépassons de tous les côtés. Les fêtes de Noël des aînés, c'est toujours une aventure jusqu'à ce qu'on ait rentré tout le monde. Et alors, bon, les repas pour la pastorale, je vous en passe, et les meilleurs, c'est impossible d'y installer tout le monde. D'autres besoins, les salles pour enfants sont insuffisantes. Lorsque vous venez au culte le dimanche, vous vous limitez à ce que vous voyez ici. Mais j'aimerais vous dire que pendant que nous sommes ici, entre 400 et 500 enfants se réunissent dans les écoles du dimanche, voire plus maintenant. Le groupe Bethesda, le groupe des enfants handicapés, se retrouve dans notre bureau. Ensuite, eh bien, les jeunes, les ados n'ont absolument pas de salle. Ils voyagent de droite, de gauche. Et si vous êtes responsable des ados, vous savez à quel point il est nécessaire de les aider. Le groupe des jeunes enfants allemands, on dit « Ich will auch, dass meine deutsche Brüder und Schwestern wissen, dass wir in diesem Projekt euch auch mit uns sehen. » Pour les jeunes allemands, ils se réunissent dans mon bureau pour recevoir les cours d'école du dimanche. C'est des conditions qu'on ne peut pas, eh bien, à la longue, prolonger ainsi. Ensuite, continuons ensemble. La salle de l'Arche donne sur un couloir. Ceux qui sont moniteurs de l'Arche le savent. C'est un lieu de passage. C'est une salle, mais un lieu de passage. Tout le monde y passe, ils sont dérangés constamment. Et je sais que tous ceux qui y sont régulièrement peuvent dire amen à cela. La salle numéro 8 est sans éclairage extérieur. La salle numéro 7 donne, elle, sur un garage. Ce sont bien sûr, eh bien, des situations qui ne sont pas les meilleures pour travailler. D'autres besoins. Il nous faut un local matériel pour les écoles du dimanche. Il y en a un ici, je ne sais pas si vous avez déjà vu le dimanche matin, ça déborde dans le couloir, on fait la file comme pendant la guerre quand on achetait le pain. Je continue. Nos bureaux sont insuffisants, exigus et inadaptés. Ce qui était vrai il y a quelques années quand nous avons agrandi, aujourd'hui ne l'est absolument plus. Pourquoi ? Parce que tout s'est développé. Ces locaux ne permettent plus de travailler dans des conditions normales. Deux de nos pasteurs n'ont pas de bureau. Ce sont des pasteurs Touareg. Ils sont nomades. Ils voyagent entre bureaux disponibles, salles disponibles. L'accueil donc ne peut se faire dans de bonnes conditions. Nos bureaux sont étroits, vous allez voir. Nous avons environ une dizaine de personnes qui constamment travaillent dans ces bureaux, et ça tous les jours. Certaines personnes qui sont venues nous voir en semaine m'ont dit « Nous ne pouvions pas imaginer tout ce qui se fait ici en semaine. » Mais on se marche dessus. Nous avons dernièrement demandé 3 secrétaires bénévoles. Elles se sont rajoutées à nous. Il a fallu les ranger dans un coin, mes chères sœurs. Nous bénissons Dieu de ce qu'elles sont là, mais les conditions de travail. Regardez Laurence. Bon, vous ne la voyez peut-être pas de très loin, mais alors elle, c'est une montagne d'affaires qu'elle a constamment. Elle s'occupe de la comptabilité. Je dois dire que pour s'occuper de la comptabilité dans ces conditions-là, eh bien, c'est extrêmement difficile. Je continue. La librairie est trop petite. Ça, vous vous en rendez compte vous-même. La régie TV et son, qui sont là au-dessus, sont trop exigus. Eux aussi sont le dimanche entre 7, 8 personnes, voire 10 personnes à travailler là-haut. Je vous propose pas tous d'y monter, hein. Mais il faut y avoir été pour y aller. Si vous avez besoin de perdre du poids, montez là-bas. 2 heures à la régie, vous perdez environ 500 grammes par séance. C'est efficace, hein? Nous avons besoin de locaux plus grands. La production CD, vidéo, DVD, etc. a pris de l'ampleur, ainsi que la production des cassettes. D'autres besoins. Il y a ici absence d'un hall d'entrée, ce qui fait que nous avons toujours un brouhaha, un bruit de fond. Dès que vous rentrez, vous êtes dans la salle. Nous avons désiré, dans l'avenir, pouvoir créer un hall d'entrée pour que vous puissiez parler dans le hall d'entrée et ensuite venir dans la salle de culte. Nous aurions désiré créer, si c'est possible, nous le verrons, une salle de lecture et d'études, de manière à ce que vous puissiez également, tout le monde ne peut pas acheter toujours les livres nécessaires pour faire des études, etc., bien que vous puissiez peut-être également venir dans une salle de lecture et d'études où vous pourriez alors, eh bien, sur certains thèmes, travailler, venir vous installer comme dans une bibliothèque et prendre du temps avec le Seigneur. D'autres besoins. Vous allez me dire, il n'arrête plus. La salle de culte. Ben, regardez ce matin et tout le monde n'est pas là. Et tout le monde n'est pas là. Est occupé en moyenne à 90%. Ce matin, on est à plus de 90%. Si nous voulons continuer à avoir une vision de croissance, rappelez-vous, en 10 ans, fois 3, on était 600, on est environ maintenant 2000 par semaine. Eh bien, il faut absolument que nous donnions de l'espace. De surcroît, elle est trop petite lors de certains concerts, lors de la pastorale, vous étiez là vous-même, je n'ai pas besoin de faire de commentaires là-dessus. Les statistiques veulent qu'une salle de cette taille-là, occupée à 80%, quand elle arrive à 80% de remplissage, en général, ne se remplit pas plus. Ça, c'est les statistiques. Mais écoutez bien, j'ai parlé l'autre jour avec quelqu'un, il m'a dit, dans un étang, vous voyez un étang, eh bien, il y a autant de poissons où le nombre de poissons est dépendant de la taille de l'étang. De surcroît, la grosseur des poissons est également dépendante de la taille de l'étang. Moi, je voudrais qu'on ait le maximum de poissons. Et que vous soyez tous très gros. Pour le Seigneur, bien sûr. Hein. Il y a, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des lois naturelles qui nous démontrent cela. Ce qui est vrai dans la nature, est très souvent vrai dans le milieu des hommes. Je continue. En 10 ans donc, le nombre de participants s'est multiplié par 3. Alors, devant ce constat, nous avons fait une étude des variantes portant sur la localisation de l'agrandissement. Le travail a été effectué en collaboration avec notre frère, qui est également architecte, David Muspak. Mon frère David est là ce matin. David, est-ce que tu pourrais te lever à ta place? Moi, j'aimerais quand même te remercier pour tout le boulot que tu as fait ici. Hein, j'aimerais te remercier infiniment. Notre frère n'a pu continuer sur ce projet-là pour des raisons simples. Il a lui-même de gros projets engagés dans lesquels il est très occupé. Mais toutes ces années, il nous a fidèlement accompagnés et cette étude-là a été faite avec lui. C'est-à-dire, nous avons voulu voir s'il faut agrandir à l'arrière, s'il faut agrandir à gauche, à droite, etc. On a fait le tour de tout ce que nous pouvions imaginer. Nous terminons par ce qui sera la solution adaptée en définitif. Un agrandissement à l'avant. Alors, l'élaboration de ce projet-là est confiée à Monsieur Troxler, qui est architecte à Mulhouse. Et c'est l'atelier donc G5 qui est chargé de cela. Monsieur Troxler nous a fait l'honneur de venir nous voir ce matin. Monsieur Troxler, venez voir chez moi. Je vais vous faire transpirer ce matin. J'aimerais vraiment remercier Monsieur Troxler pour le travail qu'il nous a fait. Les schémas que vous verrez tout à l'heure, Monsieur Troxler, comment allez-vous?
Je vous embrasse.
C'est la première fois que l'architecte embrasse le client. Au moins, vous vous en souviendrez. Les esquisses que vous verrez, Monsieur Troxler nous les a fait du premier coup de crayon. Jusqu'à aujourd'hui, tous ceux à qui nous avons montré les esquisses ont été unanimes, c'est ce qu'il nous faut. Et je crois que M. Troxler, a été inspiré sans même qu'il s'en rende compte. Ou alors il s'en rend compte, mais ne me le dit pas encore. Monsieur Troxler, merci pour votre fidélité, merci pour les travaux effectués, et merci pour ceux que je crois que nous ferons encore ensemble. Que Dieu vous bénisse, bénisse vos collaborateurs, bénisse votre travail. Merci. Le 27 juin 2003, le conseil d'administration décide de soumettre l'avant-projet au conseil d'église. Nous avons fixé trois étapes. Pour que nous allions plus loin, il nous fallait un oui du conseil d'administration, un oui du conseil d'église, un oui de la ville, et puis la dernière étape, nous la verrons ensemble tout à l'heure. Le 19 juillet, le conseil d'église s'est réuni ici, il approuve l'avant-projet, la décision est prise de le soumettre à la ville. Le 1er septembre 2003, donc il y a peu de temps d'ici, rencontre avec Monsieur Rambeau, adjoint au maire. L'avis qui nous est donné est favorable sous réserve d'améliorer l'aménagement paysager du parking. Le projet du parking est amélioré avec l'aide de notre frère François Holder, qui est ici ce matin et que j'aimerais remercier de tout cœur. Vous pouvez le remercier également, c'est lui qui va nous verdir la région. Entre guillemets, ce n'est pas une pub, mais il est paysagiste, si vous en avez besoin. Il est toujours prêt à vous servir. Merci François. Une nouvelle rencontre avec le service permis de construire donc, et le parking modifié a eu lieu le 18 septembre 2003. Et là, nous avons reçu un avis favorable oral qui a été attesté par un courrier qui date du 7-11-2003. Vous voyez donc qu'on est dans le timing. Hein ? Enfin, voilà le projet. Alors j'espère que chacun pourra le voir aussi bien que possible. Il y aura d'abord une animation et nous ferons le détail tout à l'heure. Et vous voyez, c'est comme la Jérusalem céleste, il descend du ciel. Hein ? Merci. Voilà, nous allons maintenant continuer en vous montrant les façades. C'est la façade actuelle. Cela change de ce que vous venez de voir, bien sûr. N'est-ce pas ? Cependant, notre motivation n'est bien sûr pas la façade. Voilà ce à quoi ressemblera la même façade après les travaux. Est-ce qu'on peut zoomer dessus ? Voilà. Ça, c'est l'entrée principale. Et Monsieur Troxler nous a dessiné cela du premier coup. Nous lui avions demandé de faire un projet avec les matériaux les moins chers possibles, désirant ne pas engloutir de grandes sommes, même si vous le verrez, eh bien tout a un coût, mais nous donner juste les moyens de nous équiper. Alors, sur votre droite, eh bien, je reviendrai tout à l'heure. Je voudrais rester au centre. Peux-tu me mettre au centre, Georges ? Vous aurez donc l'entrée au centre ici, et vous déboucherez sur un hall d'accueil qui fera dans les 270 mètres carrés. Sur le côté gauche, vous aurez l'espace qui servira donc à la librairie. Quand vous entrerez, vous aurez sur votre gauche la librairie. Nous y reviendrons plus en détail tout à l'heure. Nous allons passer à la deuxième vue. C'est une vue d'en haut. Est-ce que tu peux ramener vers en haut ? Voilà. Peut-être ôter le zoom une première fois. Voilà. La vue d'en haut vous permet de voir sur la droite ce qui sera la chapelle. Nous y reviendrons tout à l'heure. Le hall d'entrée aura un puits de lumière que vous voyez au-dessus. Sur tout le hall d'entrée, il y aura un puits de lumière qui permettra d'amener donc la lumière du jour à l'intérieur de ce grand hall. Hall dans lequel il y aura également une mezzanine. Nous verrons cela tout à l'heure en détail. Au bas, la librairie. Au premier étage, à gauche, des salles pour les adolescents, une salle de musique, des salles d'enfants. Et donc, de l'autre côté, à droite, la chapelle. L'agrandissement représentera quand même 2900 m². À savoir que nous avons actuellement 4000 m². Donc nous agrandissons pas loin des deux tiers. Pourquoi ? Quand nous sommes venus ici, je me souviens de l'exclamation « c'est beaucoup trop grand ». Aujourd'hui, c'est beaucoup trop petit. Et j'ai dit « Seigneur, je voudrais pas faire des travaux pour dans 6 mois me dire « c'est beaucoup trop petit ». Mais nous laisser de l'espace pour travailler. On passe au slide suivant. Voilà. Alors ça, ce sera la chapelle. Est-ce qu'on peut faire un... Non, laisse encore, c'est bon. Ça, ce sera la chapelle qui sera arrondie. Slide suivant. Voilà, est-ce qu'on peut faire un zoom là ? Voilà ce à quoi ressemblera la chapelle. Elle sera de forme demi-ronde et aura 400 places. Ce qui sera donc beaucoup plus agréable, qui nous permettra, de faire ce que nous avons besoin de faire. Maintenant, une question. Je sais déjà que vous vous la posez sans être prophète. Et qu'est-ce qui se passe avec le parking ? Vous avez vu que je savais ? Bien. Alors d'abord, j'aimerais vous rassurer. En fait, je ne peux pas vous dire que nous allons rajouter des places, mais nous n'allons pas en perdre, nous allons plutôt en déplacer. Nous allons y remédier comment ? Un aménagement du verger sera fait. Nous avons à l'arrière un verger qui pourra être aménagé en parking. D'autres aménagements seront encore possibles. Nous les avons vus ensemble avec Roger et mon frère David, d'ailleurs, nous avait donné un conseil là-dessus. Il faut aussi savoir que dans l'avenir, on pourrait éventuellement entrevoir, et ça c'est des possibilités, des parkings relais, c'est-à-dire que vous auriez votre voiture au Auchan, et puis vous déposez vos personnes ici, mettez la voiture là-bas, et une navette que l'église aurait les ramènerait ici. Ça se fait à beaucoup d'endroits, ça se fait dans des villes comme Paris, New York, ailleurs, les gens sont déjà habitués à faire cela. Mais je ne sais pas si ce sera nécessaire. Il y aura le futur tram-train. Vous avez entendu parler du tram-train à Mulhouse ? Est-ce que vous êtes venu à Mulhouse cet an dernier ? Des travaux partout. Maintenant, c'est une nécessité. Par contre, le tram-train, dans un premier temps, s'arrêtera à l'église Saint-Antoine, c'est-à-dire à 400 mètres d'ici. Dans l'avenir, normalement, on pourra venir de Crut. Écoutez bien, de Crut. Vous pourrez venir directement, échanger à la porte jaune et arriver jusqu'ici, sans prendre de voiture. Dans une seconde tranche, le tram-train devrait passer devant l'église et il y aurait une station d'arrêt en face de l'église. Est-ce que c'est pas extraordinaire ça ? Si vous venez de Wittenheim d'ailleurs, vous laissez votre voiture, vous prenez le tram-train. Ça évidemment, c'est pas demain, mais c'est en vue. Puis une dernière solution bien sûr, c'est parfois le covoiturage. Combien de fois ne vient-on pas seul dans sa voiture ? Alors qu'à côté, il y a un voisin qu'on pourrait emmener. Ça, c'est une autre possibilité, parfois se dire, écoutez, combien font du covoiturage pour aller travailler le matin ? Souvent, on s'organise. Parfois, on pourrait imaginer cela. Je vous laisse ça, c'est une idée. C'est une idée, mais qui certainement répondra à des besoins. Nous avons, après cela, organisé une nouvelle concertation avec les responsables d'activité qui a eu lieu le 18 octobre 2003, afin de leur montrer ce que nous avions fait, de leur demander encore une fois qu'est-ce qu'ils en pensaient. Ils nous ont donné leur avis, ça nous a permis d'affiner le projet. Maintenant, nous passons au plan, le plan de masse. Voilà le plan de masse. On a voulu un plan de masse, je sais que derrière vous voyez que des petits points verts. C'est pas des extraterrestres, ce sont des arbres. Et c'est les arbres que mon frère Holder nous a virtuellement plantés sur le plan. La propriété, vous pouvez la voir là, mon frère va passer avec son... Ça, c'est toute la propriété, d'accord? Et donc, le verger en vert, c'est encore toute cette surface qui n'est pas du tout aménagée en parking et que nous pourrions donc encore aménager de manière supplémentaire. On passe au plan suivant, le rez-de-chaussée. Vous avez la chapelle à gauche. Est-ce que tu peux aller avec ton rayon, s'il te plaît? Voilà, la chapelle à gauche. Vous avez la partie grise qui était en rouge tout à l'heure sur l'animation. C'est un auvent pour que quand vous arrivez, vous ne soyez pas tout de suite dehors ou quand vous sortez, que vous ayez un toit en sortant. Ensuite, vous rentrez à l'intérieur, vous avez le hall d'accueil. Sur votre gauche, il y aura une petite cafétéria pour que si vous amenez des amis, vous puissiez encore boire quelque chose avec eux. Il y aura deux escaliers qui montent à l'étage que vous voyez là. Il y aura une cage d'ascenseur du côté gauche et celle-ci est obligatoire pour également nos frères et sœurs handicapés afin qu'ils aient accès à l'étage supérieur. La salle, l'agrandissement se trouve là. Voilà. Sur le côté droit, vous avez la librairie. Et donc, sur le côté gauche, la chapelle, comme je le disais tout à l'heure, de 400 places, avec de surcroît encore des dépendances. Mais vous pourrez voir cela tout à l'heure encore. Alors, la salle de culte, nous l'augmenterons dans un premier temps de 500 mètres carrés. Dans un deuxième temps, nous pourrons réaugmenter, parce que nous avons voulu étape par étape franchir des pas, nous pourrons réaugmenter encore une fois de 200 mètres carrés, et nous avons prévu en finalité, s'il le fallait, eh bien une retransmission dans cette chapelle, ce qui porterait la possibilité d'assister au culte à plus de 3000 personnes. Donc 3000 personnes pourraient en finalité eh bien assister. Il y aurait encore d'autres choses que nous pourrions envisager. Pour l'instant, je m'arrête là. Je crois que c'est déjà eh bien un pas suffisant. Nous allons passer au premier étage. Le premier étage, vous avez d'abord une batterie en vert clair de salles pour enfants. Il y a là 10 salles pour enfants, en sachant que les salles pour enfants qui seront occupées là sont prévues comment? Elles sont prévues en fonction de l'agrandissement de la salle. On a fait un prorata des enfants par rapport au nombre de personnes qui pourraient arriver après l'agrandissement, plus un déplacement d'enfants qui sont dans les salles arrière et qui iraient vers l'avant, pour récupérer les salles arrière afin d'en faire, par exemple, eh bien, des studios de TV beaucoup plus adéquats. Il est évident que dans ces nouvelles salles seront d'abord logés les enfants qui aujourd'hui n'ont pas de place, qui se retrouvent dans les bureaux, c'est-à-dire les enfants de langue allemande, les enfants handicapés. Pour les enfants handicapés, nous verrons s'il est mieux de les garder au rez-de-chaussée plutôt qu'à l'étage, mais en fait, c'est eux qui d'abord recevront. Vous voyez en vert clair une salle de musique qui est nécessaire maintenant. À côté, vous avez une salle qui sera réservée uniquement aux adolescents. Les responsables de ce groupe de jeunes m'ont demandé une salle qui leur a attribué une salle de 130 mètres carrés. Ensuite, vous avez donc la mezzanine que vous voyez. Il y aura le puits de lumière qui est là au milieu. D'accord ? Puis nous passons à gauche. La partie kaki, eh bien, sont toute une batterie de bureaux. Alors cette fois-ci, on en a mis pour être sûr d'avoir de l'espace. La partie rougeâtre, eh bien, c'est une salle pour les jeunes. Ce sera une salle qui fera 200 mètres carrés. Les jeunes ont de bons projets et nous voulons vraiment les encourager en leur donnant également les possibilités de s'épanouir dans des locaux qui leur seront adaptés. Il faut savoir que, bien sûr, certaines de ces salles seront également polyvalentes. On les emploiera à différents moments, également en semaine. Je compte aussi, si nous avons une chapelle de 400 places, pouvoir, par exemple, organiser des concerts plus petits, de manière à ne pas à chaque fois mobiliser la grande salle, mais permettre eh bien, l'organisation d'évangélisation à de taille peut-être un peu plus petite dans la chapelle ou dans la salle de 200 places. Voilà. Ça, c'est pour le détail des plans. On va vous montrer encore d'autres, peut-être d'autres vues. Là, vous voyez un peu l'intérieur. Bon, je ne sais pas si on peut zoomer, peut-être. Et ça, c'est à l'intérieur. Je ne vais pas recommander. On va passer à l'autre vue. Voilà, là vous avez... On va passer d'abord le rez-de-chaussée peut-être. Bon, reste là puisque tu l'as. Ça c'est le premier étage. Vous voyez, la batterie de salle d'enfants, salle culte des ados, la salle de musique, la mezzanine au centre, les batteries de bureau là-bas sur la droite. Je suis déjà à la maison, moi, là. Hein, vous avez remarqué? J'ai oublié de vérifier si les toilettes sont propres. La salle de 200 places, le rez-de-chaussée. Non, ça c'est le toit. Voilà, merci Georges. Le rez-de-chaussée où vous voyez donc la chapelle, vous voyez le hall d'accueil. Est-ce que vous voyez l'arrière, donc l'escalier qui monte, vous voyez également il y aura des sanitaires, etc. La librairie, et puis donc le coin cafétéria qui sera sur la droite, plus la partie donc de la salle qui s'agrandit. Maintenant, j'ai une bonne surprise pour vous. On s'est dit, si on fait ça tout seul, c'est pas juste. Vous avez le droit de participer. Est-ce que vous vous réjouissez? Certains oui. Amen. Tout projet a un coût. Le bâtiment, proprement dit, reviendra normalement à 1 500 000 euros. Les frais annexes, ce matin nous avons voulu vous donner tous les chiffres. Eh bien, c'est les honoraires, donc architectes, assurances, taxes locales d'équipement, etc. 350 000 euros. Le parking plus les plantations, 75 000 euros. L'équipement interne, puisqu'il ne s'agit pas seulement d'agrandir, il faut équiper, il faut acheter des chaises, faut... On a vraiment voulu mettre le maximum. Comprenez-moi bien, hein, c'est un maximum qu'on a voulu rentrer dedans. 75 000 euros, total 2 millions d'euros. Maintenant, réduction du coût. Comment peut-on réduire cela? Le projet est de 2 millions d'euros, mais un calcul a été fait qui, bien sûr, peut, suivant votre participation, évoluer à la hausse, que nous pourrions faire une économie de 300 000 euros par les travaux en propre régie, c'est-à-dire les travaux que nous ferions nous-mêmes. Jusqu'à aujourd'hui, tout ce que nous avons agrandi, nous l'avons fait nous-mêmes. S'il avait fallu facturer à l'époque déjà tout ce qui a été fait, eh bien, je crois que l'Église se serait habituée à des chiffres pareils. Mais nous avons toujours tout fait nous-mêmes. Là, bien sûr, les travaux prennent une autre proportion, en tout cas pour ce qui consiste à la construction de ce qui sera la carcasse. Mais vous serez sollicités, les peintres, ceux qui posent du carrelage, les électriciens, etc. Tout le monde pourra servir et en fonction alors de cela, nous pourrons ou augmenter notre économie ou voir s'il n'y a pas suffisamment de main d'œuvre, devoir la baisser. Alors, reste à financer 1 700 000 euros. Le financement. Actuellement, nous avons en disponibilité 300 000 euros, ce qui représente 2 millions de francs. Nous avons bien sûr un peu plus, mais il nous faut garder une certaine somme pour, eh bien, continuer à tourner. J'aimerais quand même vous rappeler que l'Église a besoin mensuellement environ entre 180 000 et 200 000 francs. Ah, on dirait pas. Mais ce n'est pas peu que, eh bien, de faire fonctionner une telle œuvre. Quand je dis une telle œuvre, c'est avec le soutien de tous les missionnaires, des pasteurs, avec le soutien de tous ceux que nous avons soutenus jusqu'à aujourd'hui, de droite ou de gauche. À cela, eh bien, serait rajouté donc 1 million d'euros en dons à venir. 1 million d'euros en dons que nous n'avons pas encore. C'est ça la foi. Un prêt de 400 000 euros serait donc envisagé. Maintenant, eh bien, lorsque nous avons médité là-dessus, j'ai eu quelque chose à cœur et une conviction que je vous partage ce matin. C'est la règle des trois quarts. Alors, c'est quoi cette règle des trois quarts? Eh bien, c'est de disposer de 75% du montant du projet avant de poursuivre. Les études, puis les travaux, soit 1 million d'euros. Je ne veux, et je l'ai dit au conseil d'administration, au conseil d'église, je ne veux en aucun cas mettre l'église sous une pression financière. Deuxièmement, en aucun cas je veux que l'église arrête de soutenir les œuvres missionnaires à cause de ce projet-là. Donc nous avons dit la solution de sagesse, c'est de dire que quand nous aurons les trois quarts de cette somme, pas avec des emprunts, hein, en dons, soit 1 million d'euros, alors nous continuerons. C'est-à-dire que le projet à partir d'aujourd'hui continuera quand cette somme sera disponible. Le rythme, c'est nous qui le fixons ensemble. Je ne mettrai aucune pression. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas mon projet, je peux vous le promettre. Je ne me réalise pas au travers de cela, mais je vois l'Église, je vois ses besoins. Nous les voyons et nous désirons que l'œuvre puisse continuer. Dans Luc 14, versets 28 à 30, il est dit « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer ?» De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir et n'a pu achever. » Nous voulons entreprendre avec sagesse pour pouvoir achever ce que Dieu nous a demandé de faire. D'avance, j'aimerais vous remercier et dire quand même, et cette remarque que je ferai sera très importante, l'aide financière que nous avons apportée ces 10 dernières années aux autres églises et aux pasteurs que nous avons soutenus est équivalent, voire supplémentaire à cette somme-là. C'est-à-dire qu'avant de nous servir ici, nous avons servi les autres. Et ce que nous avons dépensé pour les autres églises et les autres champs missionnaires, dans les 10 dernières années, est à peu près ou un peu plus que la somme de 1 million d'euros. Nous n'avons jamais cherché à nous servir nous-mêmes, nous avons toujours d'abord servi notre prochain. Et en cela, j'ai vraiment une grande joie. Maintenant, à titre de comparaison, quand nous sommes passés de Pfastatt à DMC en 1987, le bâtiment que nous achetions était de 2 millions. Vous voyez, c'est la même chose. C'est juste le petit F qui change. C'est quoi un petit F contre un petit E? On va quand même pas en faire un drame. D'un petit F, on passe à un petit E. C'est parce qu'on a évolué dans l'alphabet, c'est tout. Bien, je reviens. 2 millions de francs pour 250 personnes, c'était à l'époque 8 000 francs par personne. Le bâtiment de l'avenue DMC, bien sûr, jamais 8 000 francs n'a été demandé à quiconque. D'accord ? C'est à titre de comparaison. Le bâtiment DMC a été payé en une année. 8 000 francs de 1988 représentent 10 400 francs aujourd'hui. Le projet de 2 millions d'euros pour atteindre les trois quarts, c'est-à-dire 1 million, avec, vous allez me dire, mais ce n'est pas le trois quarts de 2 millions, je dis 1 million plus ce que nous avons de disponible, plus les économies en régie, avec, s'il le faut, un prêt. Maintenant, si on pouvait l'éviter, j'en serais très reconnaissant. Le projet de 2 millions d'euros, pour, nous avons calculé non pas sur 2000 personnes, mais sur 1800 personnes, représente 1111 euros par personne, soit 7288 francs, c'est-à-dire, et c'est pour ça que j'ai voulu cette comparaison, le pacte que nous avons fait en 1987 était le même que celui d'aujourd'hui. Le projet n'est ni pharaonique, ni démesuré, il est dans une logique que l'Église a déjà connue. Pfastatt DMC et DMC Burtzwiller, lorsque nous sommes venus ici, les bâtiments ici, comme ADMC, ont été payés en une année. Alors, si je devais comparer le passage de Pfastatt à DMC avec Burtzwiller, qu'on va appeler Burtzwiller 1 et Burtzwiller 2, eh bien c'est un pas de la foi équivalent. Je donne un ordre de grandeur. C'est un ordre de grandeur. Si 700 personnes donnaient 1500 euros, 1500 euros c'est beaucoup et peu à la fois. Cependant, ça c'est que des chiffres pour ramener les choses à une valeur, à une dimension individuelle. C'est notre Église, frères et sœurs. Chacun d'entre nous peut honorer le Seigneur avec joie. Alors, vous connaissez ce dicton qui dit « Les petits ruisseaux forment les grandes rivières ». C'est un dicton bien connu. Chacun est libre. Je vous ai donné des chiffres pour avoir des références, mais chacun est parfaitement libre. Celui qui ne peut rien donner, c'est toujours sa maison. Il est toujours chez lui ici et il ne doit rien à personne. Dans 1 Chronique 29, verset 5, voilà ce qui s'est passé quand ils ont fait les offrandes pour la construction du temple du temps de David. Qui veut encore présenter volontairement aujourd'hui ses offrandes à l'Éternel ? 1 Chronique 29, verset 5. 1 Chronique 29, verset 9, le peuple se réjouit de leurs offrandes volontaires, car c'était avec un cœur bien disposé qu'il les faisait à l'Éternel, et le roi David en eut aussi une grande joie. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, chapitre 9, verset 7, que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Frères et sœurs, pour certains, vous venez depuis 25 ans, 28 ans, voire 30 ans. Vous savez que jamais nous n'avons demandé d'argent, jamais. Vous savez que jamais on a prêché sur l'argent ici, et ce n'est pas aujourd'hui que je suis prêt à le faire. Nous avons présenté un autre projet, celui de la maison de Dieu. Je crois que c'est notre maison que chacun, maintenant, à partir d'aujourd'hui, se sente libre. Les uns ne pourront rien donner, d'autres un peu, d'autres un peu plus, d'autres beaucoup. L'essentiel, c'est que tout ce que nous le fassions avec joie, sans contrainte. Si vous vous sentiez contraint, s'il vous plaît, ne donnez rien. Dieu saura pourvoir. Maintenant, pour terminer, et j'arrive à la fin. Eh bien, comment allons-nous faire ? Nous avons eu à cœur quelque chose. Et nous nous sommes basés sur la Bible. Le coffre de Jehojada. C'est-à-dire un coffre spécial pour les dons destinés au projet. Parce qu'à côté de cela, l'Église doit continuer à fonctionner. Vous l'avez bien compris. Voilà ce qu'il est dit dans Rois 2 Rois 12, 9. Je vous le lis. Joas, roi d'Israël, avait décidé de réparer le temple. Et nous lisons. Alors le sacrificateur Jehojada prit un coffre, perça un trou dans son couvercle et le plaça à côté de l'autel à droite sur le passage par lequel on entrait à la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs qui avaient la garde du seuil y mettaient tout l'argent qu'on apportait dans la maison de l'Éternel. Quand ils voyaient qu'il avait beaucoup d'argent dans le coffre, le secrétaire du roi montait avec le souverain sacrificateur et il serrait et comptait l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel. Il remettait l'argent pesé entre les mains de ceux qui étaient chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison d'Éternel, et l'on employait cet argent pour les charpentiers et pour les ouvriers qui travaillaient à la maison d'Éternel, pour les maçons et les tailleurs de pierre, pour les achats de bois et de pierre de taille nécessaires aux réparations de la maison de l'Éternel, et pour toutes les dépenses concernant la réparation de la maison. Ce coffre était placé dans le temple à droite.
Ce message vous est offert par la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Retrouvez-nous sur le www.porte-ouverte.com.